Enfin, c'est plutôt une bonne idée.
Après, ça dépend. Enfin,
ça dépend au niveau humain où est-ce qu'il veut mettre les personnes.
C'est génial.
Les élections municipales approchent et Radio Campus Angers va vivre au rythme de la campagne.
Je vous relance la question.
Du 24 au 28 février et du 10 au 14 mars, chaque candidat à la mairie sera l'invité du sous-marin de 19h à 20h.
C'est bien beau de dire qu'on embauche les jeunes.
Valentin et Pierre-Antoine sont allés demander aux étudiants ce qu'ils pensaient de cette proposition.
Ça va être difficile à appliquer.
Épluchage de programme, micro-trottoir, réponse aux questions des auditeurs. Nous passons en mode électoral.
Vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu majoritairement consacrée aux élections municipales. Vous entendrez notre sous-marin lorsque l'on en branche les hydrophones, c'est-à-dire tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Je suis Tiffaine et à mes côtés, en ce jeudi, voici Mathilde. Salut Mathilde.
Salut.
Et Rémi dans la boîte pour sa chronique Écho. Vous entendrez aussi le rendez-vous lancé par Aïcha et Tina qui sont allés à la rencontre des cultures du monde. Comme chaque jour, vous retrouverez l'agenda et la bulle sonore à la fin de ce sous-marin. Tout le monde est à son poste. C'est parti. Et on commence donc ce sous-marin par le flash au niveau de la mer de Mathilde. Les infos dont nous aurions pu nous passer cette semaine. Cette semaine, vague de sexe, drogue et des faits divers un peu rock'n'roll tout de même.
La cachette du mois. C'est comme ça qu'on aurait pu appeler le ventre d'un homme qui s'est fait opérer ces derniers jours en Saône-et-Loire pour des douleurs abdominales. On ne s'étonnera pas de la raison pour laquelle ce monsieur avait bobo, puisqu'il avait ingéré environ 600 grammes de boulettes de cocaïne transportées évidemment clandestinement en revenant d'un voyage en Amérique latine. Grillé, comme le diraient certains, c'est ça de vouloir faire le malin à l'aéroport. On continue dans la série drogue avec une famille américaine qui se prend un trip direction l'hôpital encore une fois. Fin de semaine dernière, on apprend qu'une famille entière s'est retrouvée aux urgences à cause d'un steak. On imagine le tableau, toute la famille réunie pour un bon repas. Deux fillettes de 6 et 7 ans, la mère enceinte de 9 mois et le père, qui commencent tous à avoir des hallucinations. Direction donc les urgences, avec examen et tout le toutim. Les examens ont en fait révélé la présence de LSD dans les steaks, provenant de la célèbre enseigne Walmart. Les médecins ont dû provoquer l'accouchement de la jeune femme. Heureusement, le bébé est né en bonne santé. Ça fera une anecdote sympa à raconter à lui raconter, quand il sera grand. Mes parents, c'est drogué.
On reste aux États-Unis avec cette fois un chat qui sème la terreur.
Un chat persan de 10 kilos a attaqué un bébé et pris en otage toute une famille américaine dans leur appartement, nécessitant l'intervention de la police, rapporte mardi la presse locale. L'agressif animal s'en était pris à un bébé de 7 mois, obligeant les parents de l'enfant à faire sortir le chat de la chambre. Mais le félin s'est énervé derrière la porte au point que son propriétaire n'osait plus sortir de la pièce et a appelé la police. « Nous sommes coincés dans la chambre, il ne va pas nous laisser sortir », dit-il au téléphone. L'homme a finalement réussi à immobiliser le félin psychopathe et a tout de même précisé que le chat avait des antécédents. Le pire, c'est que la famille a gardé le chat en concluant par un « Il faut vraiment qu'on éloigne le bébé du chat et qu'on garde un œil sur son comportement ». C'est un drôle de Stockholm, peut-être.
France, une vidéo champêtre choque la Sarthe entière.
Pour une fois qu'on parle de la Sarthe dans les infos nationales, on aurait espéré meilleure publicité. C'est en début de semaine que le scandale a explosé lorsque les habitants de Louis ont pu découvrir une vidéo pornographique faisant la « promotion » entre guillemets du village. Filmée en plein jour, dans les rues du Patelin, une jeune femme se fait passer pour une éleveuse de poulets, posant devant même un panneau d'entrée de la ville. Habitants choqués, fermiers légèrement remontés, tout le monde veut porter plainte. C'est dommage, ça partait d'un bon sentiment pourtant de faire la promo.
Merci Mathilde. Tout de suite, on passe à l'interview de ce sous-marin après avoir reçu Frédéric Béatz, Christophe Béchu, Laurent Géraud, Jean-Luc Roturo, Gaëtan Diran, Marie-Josée Faligan et Hubert Lardeux. Nous continuons notre série spéciale municipale. À la fin de cette semaine, nous aurons donc accueilli les 9 candidats aux élections. Cet après-midi, nous avons reçu Nathalie Sévaud dans nos studios et nous l'avons interviewée avec Pierre-Antoine. Elle a été tirée au sort pour être désignée tête de liste à 28 ans. Elle est la plus jeune prétendante au siège de maire de ces élections municipales en juin et seulement la deuxième femme. Son métier, ce n'est pas la politique, mais l'agriculture biologique. C'est peut-être pour ça qu'elle mène la liste vertement intitulée « Angers, vivre mieux naturellement ». Bonjour Nathalie Sévaud.
Bonjour.
Alors, tirée au sort cette tête de liste, ça veut dire quoi? Est-ce que personne ne voulait y aller? Est-ce qu'il n'y avait pas de leader?
Non, c'était justement pour montrer que dans notre liste, voilà, on mettait les idées avant les personnes et qu'on voulait ainsi éviter les luttes de pouvoir qui pouvaient arriver du fait, enfin, qui sont courantes dans les partis traditionnels pour savoir qui mène la liste. La preuve, là, on a un dissident parmi les candidats, qui est Jean-Luc Roturo, parce que il aurait bien aimé être à la place de Frédéric Béatz.
Vous êtes arrivée à quel stade, Nathalie Sévaud, de la constitution de la liste?
Moi, je suis arrivée après l'été. En fait, la liste, elle émane d'un petit groupe de personnes qui avaient milité dans une association qui s'appelait Stop Rocade à l'époque, et donc qui refusait la construction d'une nouvelle rocade au sud d'Angers en disant que ça allait empiéter sur des terres agricoles, etc. Et du coup, comme leur combat s'est terminé, vu que le projet a été abandonné, les élus ont eux-mêmes dit que finalement c'était un beau projet, mais très onéreux, donc ça allait pas le faire. Ils se sont dit, maintenant, plutôt que de critiquer, on va faire des propositions. Pourquoi les citoyens s'empareraient pas aussi du débat dans les élections municipales? Donc, ils ont monté cette liste il y a un an, en mars 2013, du coup. Et moi, après l'été, là en septembre, je me disais, oh là là, on va encore avoir les mêmes candidats, comme d'habitude, les professionnels de la politique, tous des hommes ou presque. Je me sentais pas représentée. Je me disais, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose, quoi? Comment faire pour que les citoyens soient là aussi? Et donc, je suis allée sur Internet et j'ai vu ce petit noyau qui avait fait un site Internet qui montrait leur dynamique. Et je me suis dit, mais bingo, c'est pile ce qui me correspond. Donc, une liste écologiste, citoyenne. Moi aussi, j'ai des valeurs aussi féministes, le fait qu'il y ait plus de femmes et de débats autour de la place de la femme. Donc,
voilà. Elle était dure à constituer cette liste, les 55 noms?
Au début, c'était un peu un pari fou, je pense, qu'ils ont fait, en se disant on va constituer une liste avec 55 personnes. Et ça s'est monté progressivement. Et puis, il y a eu aussi une bonne dynamique à partir de décembre-janvier. Donc en début d'hiver, là, c'est vraiment là que ça s'est monté.
Angers Vivre Mieux Naturellement, c'est un nom de liste qui sent bon la verdure, mais vous n'avez pas d'étiquette, ni Europe Écologie et Les Verts qui s'est rallié à Frédéric Béatz, ni même gauche ou droite, d'ailleurs. Alors, une tête de liste tirée au sort, pas vraiment de couleur politique, verte, mais pas de couleur autre. C'est pas un peu flou?
Non, justement, on voulait que les gens, plutôt que de voir qu'on était PS, Europe Écologie ou UMP, ils regardent d'abord nos idées, ils se rallient avec nous d'abord par les idées. Donc effectivement, nous, on se retrouve pas dans les partis traditionnels, on a décidé de monter cette liste citoyenne, et à l'intérieur, il y a des gens qui ont voté pour différents partis aux précédentes élections.
Il y a Stéphane Rimbaud, ex-responsable d'Europe Écologie.
Il y a des gens qui ont été encartés, tout à fait. Il y a des gens qui ont été encartés dans d'autres partis aussi que Europe Écologie Les Verts, donc je pense que c'est aussi cette diversité qui est une richesse et cette initiative qui permet d'avoir une diversité de personnes comme ça.
Et est-ce qu'il fallait vraiment une liste indépendante pour défendre la planète finalement?
Moi je pense que oui, en tout cas c'est notre stratégie. Après il y a d'autres écologistes qui ont d'autres stratégies, mais nous on pense que oui, parce qu'on a une liberté de parole, on peut critiquer les projets en cours. Et ce qui est plus facile que quand on est rallié directement avec la municipalité sortante. Donc nous, c'est notre stratégie en tout cas.
Dans un article du Courrier de l'Ouest publié mardi, Nathalie Sévaux, le journaliste emploie le terme de « jeunette ». Est-ce que vous souffrez de cette position de jeune, de femme et de nouvelle arrivée dans la politique?
Non, moi j'ai plutôt tendance à le revendiquer. Oui, je suis jeune, oui, je suis une femme. Et pourquoi il n'y en a pas plus, quoi? Pourquoi vous non plus, vous n'êtes pas impliquée? Pourquoi vous ne seriez pas vous aussi sur une liste? Pourquoi il faut avoir plus que 40 ans, être un homme avec un costume cravate pour avoir plus que 10% au premier tour? Non, je le revendique et je pense que c'est important qu'on ait justement des gens comme ça qui soient dans le débat des municipales.
Alors on va passer à vos propositions pour Angers, les propositions d'Angers Vivre Mieux Naturellement, Nathalie Sévaux. Pierre-Antoine.
Alors Nathalie Sévaux, sur Radio Campus on est un petit peu embêté. On n'a pas trouvé une ligne dans vos propositions consacrée aux jeunes ou aux étudiants. Les jeunes, c'est pourtant 37% de la population à Angers. Vous les ignorez totalement ou...
Pas du tout, c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est parce qu'en fait on considère que les jeunes, c'est pas forcément une catégorie à part, mais ça doit être une catégorie qui est parmi et qui vit avec le reste de la société. Et je pense que justement, ce qu'on propose, c'est pour tous les Angevins, et c'est pas spécifiquement que pour les gens des quartiers ou que pour les gens du centre-ville, que pour les jeunes ou que pour les vieux. Et du coup, a priori, vous devez pouvoir vous retrouver dans toutes les propositions. Après, effectivement, on peut le décliner. Il y a eu un débat sur le campus de Saint-Serge mardi soir. Donc là, on a décliné au niveau des jeunes nos propositions. Mais en tout cas, les fondements, pour nous, c'est l'ensemble des citoyens.
Et donc, qu'est-ce que vous proposez donc pour les étudiants?
Alors, pour les étudiants, vous avez parlé du logement. Enfin, tout à l'heure, en off, on a parlé un petit peu du logement. Pour nous, c'est effectivement une problématique très importante. Et donc, sur le logement, la municipalité, elle a un pouvoir d'action. Elle peut notamment mettre à disposition des terrains pour le CROUS. Donc ça, pour construire des nouveaux bâtiments. Donc on peut penser à ça, mais pour nous, c'est pas des terrains qui sont dédiés aujourd'hui à l'agriculture. Il faut que ça soit dans une politique globale de qu'on empêche l'étalement urbain, en fait. Donc c'est plutôt regarder les dents creuses dans la ville, les endroits où on peut faire des nouvelles constructions, mais aussi faire pas des constructions à pas cher, des choses qui vont durer 10 ans et qui après seront pleines de courants d'air, super difficiles à chauffer, qui coûteront cher aux étudiants. Donc pour nous, toute la politique de logement, il faut que ça soit des logements à haute qualité environnementale, qui soient pensés peut-être plus sur le long terme, qu'on mette peut-être plus de temps à les construire, mais que ça soit mieux. Et puis après, il peut y avoir aussi toute une politique d'appui au CROUS pour rénover tous les logements aussi aujourd'hui étudiants qui sont en partie désuets. Voilà.
Une des préoccupations des jeunes, en juin ou pas d'ailleurs, c'est le chômage. Comment faire pour relancer l'emploi à Angers, pour que les étudiants qui sont venus à l'école à Angers, finalement, ne repartent pas ailleurs pour trouver du travail?
Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une crise économique avec un taux de chômage qui est important. Enfin, voilà, moi aussi, je suis jeune et effectivement, c'est pas facile. J'ai plein d'amis qui mettent 6 mois, 1 an à trouver du boulot. Mais pour nous, on pense que la crise écologique, en fait, c'est aussi la crise d'un système. Elle est liée aussi à la crise...
La crise écologique.
La crise économique, voilà, est liée à la crise écologique. C'est tout un système, en fait, qui est un peu en fin de course. Et finalement, on va pas trouver des emplois comme ça miracle en faisant... venir des entreprises miracles comme ça qui vont d'un coup faire des milliers d'emplois pour tous les jeunes. L'idée, c'est de construire aujourd'hui et surtout, bah, nous les jeunes notamment, nos emplois de demain.
Comment ?
Et donc, bah, par exemple, surtout favoriser toutes les filières qui sont des emplois locaux, non délocalisables. Par exemple, ça peut être dans la rénovation énergétique, ça peut être le développement de l'agriculture biologique, ça peut être l'artisanat, ça peut être les services à la personne. Pour nous, l'emploi, ça va passer par l'écologie et la solidarité. Et ouais, par exemple, l'exploitation des ressources renouvelables, par exemple, le problème des ardoisières, finalement, non renouvelables, le problème des ardoisières, enfin, c'est aussi... montrer qu'il y a un modèle qui est un peu en bout de course, malheureusement, quoi. Il faut trouver des nouvelles solutions. Et là, là, c'est la jeunesse et là, c'est tout le monde qui doit se pencher là-dessus, quoi.
Et pour les jeunes qui ne se destinent pas à travailler dans l'environnement, dans les énergies renouvelables ou encore dans le social que vous citiez tout de suite, qu'est-ce qu'on fait ?
Il y a plein de... Quand je parle, le service à la personne, enfin, ou les services, c'est quelque chose qui est hyper vaste et qui peut se décliner dans plein de choses. Donc, le logement, les commerçants, tout ça, c'est des choses, mais une économie locale, quoi, et pas forcément une économie qui est exclusivement basée sur la mondialisation, le libre-échange et tout ça. Pour nous, c'est ça qui va être la clé de l'avenir.
Justement, une économie locale, vous proposez de promouvoir et soutenir une monnaie locale. Nous sommes allés demander aux Angevins ce qu'ils pensaient de cette proposition.
C'est déjà assez le bordel avec l'euro, donc je pense rajouter encore une autre monnaie. Non, je pense que ça ne le ferait pas.
Non, il faudrait... Aujourd'hui, on a l'euro, c'est très bien. Quand on voyage, ça nous permet d'avoir la même monnaie partout. Et c'est se compliquer la vie pour rien. Et en plus, au niveau des cours, ça serait ingérable.
Ouais, c'est bien ça. Je pense que c'est des bonnes alternatives.
Ah, pas du tout, du tout. Parce que ça empêcherait l'échange avec les autres pays, même avec les autres régions. Et non, ça va bloquer l'économie.
Alors, il y a un jeune homme qui dit « c'est déjà assez le bordel avec l'euro ». Qu'est-ce que vous lui répondez, Nathalie, c'est vous ?
C'est pas très compliqué à utiliser la monnaie locale. En l'occurrence, ici, celle qui existe, c'est la muse, la monnaie à usage solidaire et écologique. Et en fait, 1 euro égale 1 muse. Donc finalement, l'utilisation, c'est vraiment simple. Il suffit d'aller acheter des choses dans des endroits qui acceptent la muse.
Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que dans nos propositions, l'idée, c'est de soutenir et développer cette monnaie. Par contre, il y a 2000 monnaies qui existent dans le monde. Ce n'est pas une idée un peu d'urluberlu écologiste d'ici. Et en fait, cette monnaie, le principe, c'est qu'elle perd de sa valeur. Donc, il faut l'utiliser. Il faut qu'elle tourne. Et du coup, ça empêche la spéculation. Et ce n'est pas forcément une monnaie qui est à la place de l'euro, mais c'est une monnaie qui favorise l'économie locale. Et donc, effectivement, pour des échanges internationaux, on peut continuer à utiliser l'euro. Enfin, c'est une monnaie qui n'est pas très vieille. Mais pour tout ce qui est développer l'économie locale, ça, c'est vraiment un outil qui est intéressant.
Vous l'utilisez à titre personnel ?
Ouais, moi je l'utilise à titre personnel. Effectivement, je regrette en habitant sur Angers qu'il n'y ait pas encore assez de commerçants qui l'acceptent. Mais l'enjeu, ça serait bien là, ça serait de le développer, de faire connaître et de soutenir ce mouvement.
Pierre-Antoine ?
Alors vous misez au sein du parti sur l'économie sociale et solidaire. Mais aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est que 10% du PIB. Et donc 77% de ceux qui... des groupes qui utilisent qui font partie de l'économie sociale et solidaire sont des associations. Comment cela peut devenir un moteur de l'économie angevine et même française?
Il faut que les entreprises se l'approprient et que ça soit aussi un vecteur pour... On parle d'initiative, d'innovation. C'est pas l'innovation, c'est pas forcément des grosses machines qui exploitent des ressources non renouvelables. Ça peut être aussi des innovations écologiques, des innovations... Donc, je pense que c'est un secteur qui est encore mal connu et qui reste complètement à développer. Là, on pense, voilà, vous me demandiez tout à l'heure, tous les autres qui ne se destinent pas à l'agriculture, à l'artisanat et tout ça, là, il y a des secteurs hyper vastes, quoi, qui sont pas aujourd'hui très connus.
Alors évidemment, Nathalie Sévo, vous êtes écologiste. Voilà quelques propositions dans ce domaine sur votre liste. Je cite « Faire pousser partout dans la ville des comestibles incroyables, en finir avec les pesticides, raisonner l'éclairage public. Avec Angers en première ville verte de France, on voit que c'est un peu compliqué de renouveler l'écologie ici, non ?»
Oh non, il y a plein de choses à faire. Angers, faudrait un petit peu s'intéresser aux critères aussi qui font que Angers, c'est la première ville verte de France. Effectivement, c'est très bien. Enfin, on peut se féliciter que les municipalités passées aient fait des choses. Mais c'est aussi le fait qu'il y a ces grands espaces, notamment le lac de Maine, l'étang Saint-Nicolas, qui, font partie de la ville d'Angers, alors que dans d'autres métropoles, c'est... au niveau de l'agglomération. Et du coup, c'est notamment pour ça que c'est une ville verte. Mais il y a encore plein de choses à améliorer. Par exemple... Le lac de Maine, on dit que c'est un espace classé comme espace naturel dans la municipalité. On voudrait, avec les rives nouvelles, que la Maine devienne un corridor écologique, vraiment joue plus son rôle. Et pourtant, au niveau du lac de Maine, toutes les bords sont plantés d'espèces non locales, d'espèces qui sont juste décoratives. Et ça, c'est pour la biodiversité, pour l'écologie, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Donc, il faudrait planter plutôt des espèces locales. Il faudrait... développer plus de partenariats. On parlait tout à l'heure d'agriculture biologique, mais là, on a tendance avec les nouvelles constructions, l'atoll ou des choses comme ça, à repousser les agriculteurs de plus en plus loin, alors que l'enjeu de l'agriculture, notamment périurbaine, c'est d'alimenter la ville. Donc plus ils sont loin, plus ils sont loin aussi des consommateurs. Donc nous, dans nos projets, c'est aussi ça, protéger l'agriculture périurbaine, développer l'agriculture biologique, parce que sans pesticides, parce que les pesticides, c'est issu du pétrole, et donc c'est l'avenir d'essayer de se passer du pétrole. Puisque les ressources vont en diminuant, etc.
Dans votre programme, vous êtes bien sûr contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Comment est-ce qu'un maire peut lutter contre un projet qui n'est pas sur son territoire ?
C'est déjà en soutenant pas aussi financièrement, parce que là, sur un projet comme ça, toutes les villes alentours, on peut leur demander de soutenir aussi financièrement le projet. Là, on a vu l'aéroport à Marseille, qui est un aéroport qui est tout récent, qui ne fonctionne pas, et la mairie met chaque année des centaines de milliers d'euros dans ce projet-là. Donc tout cet argent-là, pourquoi ne pas faire d'autres choses, aider les jeunes à construire leur emploi, leur entreprise.
Et pour Notre-Dame-des-Landes alors ?
Et pour Notre-Dame-des-Landes,
comment est-ce qu'on peut faire quand on est maire pour lutter contre ce projet d'aéroport ?
Eh bien déjà, on peut se positionner contre, donc ça veut dire qu'au niveau national, ils vont comprendre que localement, il n'y a pas de soutien et donc il n'y a pas forcément d'intérêt. On peut demander des contre-expertises. Enfin, c'est plus un pouvoir politique, effectivement, qu'un pouvoir, un pouvoir vraiment technique. Mais politiquement, oui, il y a du poids. Un maire d'une ville de 150 000 habitants qui refuse un projet comme ça, ça ne court pas les rues.
Alors, parmi les propositions concernant le cadre de vie angevin, il y a également réduire la place de la publicité et la remplacer par de l'art.
Au niveau des affiches, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant au niveau de la ville, je pense. Ça pourrait être même très bien. Pour montrer que Angers est une ville culturelle et au lieu de la publicité, ça pourrait être une très bonne idée.
La publicité me paraît indispensable dans une société de consommation, donc remplacée par de l'art, je ne pense pas.
Alors Nathalie Sévo, qu'est-ce que vous répondez à ce jeune homme qui estime que la publicité fait partie intégrante de la société ?
Peut-être qu'il a trop baigné dans la société de consommation, justement. Et non, la vie, c'est pas que consommer. Et oui, la vie, c'est aussi contemplative, c'est avoir une qualité de vie qui est intéressante. Et aujourd'hui, la publicité, nous, on considère qu'elle est plutôt agressive que agréable. Et on aimerait la limiter le plus possible. Il faut savoir que le règlement de la publicité est complètement obsolète, il date des années 80, et ce qui permet de voir apparaître des écrans 3x4 à 50 mètres du château, des choses comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Il faut arrêter de prendre les gens pour des porte-monnaies ambulants qui vont faire que d'acheter.
Et donc vous la remplacez par quel type d'art ? Un peu comme Christophe Béchu qui voudrait mettre des affiches de peinture dans les rues ?
Bah après, ça, c'est pour montrer que... Enfin, remplacer par de l'art, c'est pour montrer qu'effectivement, il y a d'autres choses à faire que mettre de la pub. Après, je sais pas, je pense qu'il faudra se baser sur les artistes locaux, les collectifs, regarder ce qu'ils proposent, et pas forcément mettre de l'art en... juste remplacer, mais juste avoir une nouvelle politique de la publicité et de l'affichage, quoi.
Artistes locaux, vous avez dit, on va marquer une pause musicale, justement, Nathalie Seyoux, avec un groupe local, un groupe angevin. Je vous dis pas qui c'est tout de suite, je vous laisse deviner. Nathalie, c'est vous, est-ce que vous avez reconnu ?
Non, je n'ai pas reconnu. Je dois être pas si jeune que ça, finalement.
C'est Coco Girls, avec Comme une ombre. Est-ce que vous vous intéressez à la, l'actu musicale angevine ?
J'aime bien, effectivement, mais après, je pense qu'il y a d'autres gens dans la liste qui sont beaucoup plus calés en culture et en musique que moi. Mais je trouve ça chouette qu'il y ait en tout cas plein de dynamique et qu'il y ait des scènes à Angers qui puissent accueillir les artistes locaux.
Justement, Pierre-Antoine.
Alors, parlons culture, alors, parce que votre chapitre qui est consacré arrive en toute fin de programme. Mmh. Finalement, à Angers, vivre mieux naturellement, la culture, c'est pas vraiment votre priorité ?
Ah, si, justement. On a, dans la liste, notamment des artistes et des gens qui sont très liés au milieu culturel, qui m'ont dit une chose l'autre fois, c'est que la culture, c'était vraiment, ça faisait partie de la vie et c'était vraiment le petit plus qui rend la vie chouette, quoi. Et donc, effectivement, c'est quelque chose d'important pour nous. Mais un peu comme sur tout le reste des projets, on trouve que, voilà, à Angers, il y a une offre un peu institutionnelle qui est intéressante. Il y a le quai, il y a le Shabada, il y a le centre des congrès, voilà, il y a des choses comme ça. Mais l'idée, maintenant, c'est aussi pas forcément amplifier les grosses offres un peu comme ça, plus gros projets de prestige, mais plutôt soutenir, bah là ça va dans le sens de toutes les initiatives locales, quoi. Les artistes locaux, les circuits courts alimentaires, mais aussi culturels.
Mais alors ça existe par plusieurs biais. Il y a tout un pan de visibilité. Il y a la playlist Angers, il y a le tremplin Temporive, mais il y a aussi l'association Art Drama Shabada qui mène des actions d'aide à la création pour les artistes. Vous proposez de soutenir les artistes locaux, mais vous avez des projets plus concrets?
Ça peut être la recherche de lieux, par exemple, parce que voilà, apparemment c'est très difficile quand on est artiste d'avoir un atelier ou des choses comme ça. Ça peut être aussi mettre en synergie tout ce qui existe. Ça peut être ouvrir plus des petits lieux pour faire des galeries, mais des choses très simples, quoi. Pas forcément monter une nouvelle galerie immense ou un centre d'art à la prison, c'est ça. Mais plutôt ouvrir des petits lieux, des chapelles, des choses comme ça, aux artistes locaux pour qu'ils puissent exposer. C'est des choses simples, mais des choses plus proches des gens. Et notamment dans les quartiers, parce que là, la culture institutionnelle est très centrée au centre-ville. On a des deux côtés de la rive. Mais l'idée aussi, c'est de faire des événements dans les quartiers qui partent de la culture des gens. C'est ça aussi, pas seulement la culture en tant l'art, le cinéma, tout ça, mais aussi partir de la culture des gens pour faire des événements, etc.
Vous proposez également une tarification progressive pour l'accès aux musées et aux spectacles via la carte Atout, qui a déjà beaucoup d'offres pour les personnes en difficulté financière à Angers. Est-ce que ça ne suffit pas ?
Effectivement, il y a plein d'offres. C'est pas forcément bien connu des gens. Et la carte Atout, c'est quelque chose qui peut être un peu vécu comme compliqué d'utilisation. Donc il faut sûrement un petit peu plus communiquer, réfléchir à des simplifications, des tarifs avantageux sans prendre d'un coup 200 euros sur sa carte Atout, des choses comme ça. Et puis aussi, ce que je disais, peut-être ouvrir la culture plus aussi dans les quartiers, qu'il y ait des choses qui soient délocalisées dans les quartiers.
Vous avez des projets d'événements culturels? Vous avez pensé à ce genre de choses? Ou est-ce que ce qui est déjà là convient?
Eh bien, justement, c'est ce que je disais mardi soir, là. L'idée, c'est que nous, on n'est pas la municipalité qui va faire quelque chose de descendant, une idée. Je vois, il y a d'autres candidats qui ont déjà plein d'idées. Ils vont faire de la danse, du théâtre, je ne sais plus quoi. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on se base sur les initiatives locales. Et à partir de là, on essaye de faire des consultations. Enfin, on essaye plutôt de soutenir ce qui part des gens et pas faire une espèce de grosse machine descendante, quoi.
En termes de sport, vous êtes contre la construction d'une nouvelle patinoire. Voilà la réaction des Angevins à cette proposition.
Oui, je pense, pour ceux qui en font, ce serait bien d'en avoir une nouvelle, oui.
Non, moi je trouve qu'elle est déjà bien, même si c'est vrai que l'équipe de hockey monte et est à un très haut niveau et très forte, mais après, de là à avoir une nouvelle patinoire, je trouve qu'elle est déjà très bien placée, même si elle est un peu vieille, je trouve qu'elle est encore très bien et qu'elle suffit.
Chacun une patinoire, j'ai l'impression qu'elle fonctionne bien, non? Il faut en créer une autre, non? Ouais. Je sais pas. Non, j'ai pas l'impression que ce soit utile.
Alors, ils ont l'air plutôt d'accord avec vous. Vous avez une réaction?
Ouais, je pense que de toute façon, il y a plus beaucoup de listes aujourd'hui qui disent qu'il faut créer une nouvelle patinoire. Une patinoire neuve, ça coûterait 25 millions d'euros. Là, le budget d'une mairie, c'est comme une enveloppe. Il va falloir le diviser. Donc, si on met 25 millions d'euros dans une patinoire, pour nous, on fait pas nos projets qui sont prioritaires. Par exemple, là, c'est des repas bio dans les cantines scolaires. Ça peut être soutenir plus justement les Crous pour qu'il y ait aussi des produits bio dans les restaurants universitaires, des choses comme ça, quoi. Je pense qu'avec 25 millions d'euros, on peut faire beaucoup d'autres choses très intéressantes.
Et pour le stade Jean Bouin, par exemple, qui pourrait voir débarquer dès l'année prochaine des grands clubs de football, si le SCO monte en Ligue 1, est-ce que vous avez un projet de rénovation?
Alors là, pareil, ça s'étudie. En tout cas, pas de nouvelles constructions, mais rénovation, réhabilitation, c'est des choses effectivement qu'il faut envisager si c'est nécessaire pour la poursuite de ce club-là. Mais de manière raisonnable et pas faire que du prestige, mais faire ce qui est nécessaire.
Vous proposez, toujours dans le chapitre sport, de baisser les subventions des clubs pro en cas de salaire indécent des joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont un salaire indécent à Angers?
Ouais, on pense que quand on gagne plus de 10 fois le SMIG, ça commence à être indécent.
Vous pensez à quel club?
Après, effectivement, je connais pas les salaires des joueurs du SCO, mais c'est ce que je dis, ce qui est marqué, c'est en cas de salaire indécent. Donc, vu que la mairie, elle subventionne le club, il faut qu'il y ait une transparence aussi dans l'utilisation de l'argent. Et même si elle subventionne des équipements par des fins, du fait, c'est tout le club. Et si les clubs peuvent payer 10 fois ou plus de 10 fois le SMIC à ces joueurs, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas forcément besoin de toute la subvention de la mairie, quoi.
Pierre-Antoine.
Changeons un peu de chapitre, parlons démocratie locale. Vous souhaitez la création d'un journal d'information municipale autre que de la propagande. Mais un journal d'information municipale, ça c'est jamais de l'information objective. Vous n'avez pas envie de laisser ce travail un peu aux journalistes de l'Ouest France ou du Courrier de l'Ouest, Angers Mag?
Ça sera toujours complémentaire. De toute façon, Ouest France, Courrier de l'Ouest, Angers Mag, il faut qu'ils soient indépendants, qu'ils continuent à faire des articles très bien et des articles aussi... voilà, qui critique la municipalité. Après, aujourd'hui, le journal, c'est surtout justement valoriser les projets actuels. Nous, ce qu'on pense, c'est pas faire un nouveau journal, mais laisser plus de place aux partis d'opposition et à l'opposition dedans. Ce qu'on a mis aussi, c'est dans notre circulaire, c'est moins de photos d'élus. Parce que bon, on a l'impression que c'est ça. On a beaucoup vu Frédéric Beatz dans les journaux. On pouvait compter le nombre de têtes. Donc voilà, vraiment un journal aussi qui parle de la politique de la ville et aussi qui la critique, avec là la place de l'opposition. À l'intérieur.
On va finir cette interview par un petit quiz, Nathalie Sevaux. Quel est votre groupe angevin préféré?
Moi, je connais bien Lojo parce que j'habite... je travaille juste à côté.
La dernière sortie culturelle que vous ayez faite?
Je suis allée au Festival du Cirque voir un spectacle qui s'appelait Secret.
Votre quartier préféré?
Moi, j'habite entre la gare et la Baumette et j'aime bien ce quartier.
Combien de fois par semaine est-ce que vous prenez le tramway?
Je prends jamais le tramway parce que c'est pas dans dans mon trajet de boulot. Je prends plus le bus.
Et votre bar favori?
J'ai deux bars dans lesquels je vais beaucoup. C'est le Welsh et l'Angevine.
Question bonus, ça vous a vraiment fait plaisir d'être tiré au sort ou c'est un peu la galère maintenant?
Sur le coup... Je sais pas, ça a toujours été mitigé. Par contre, c'est très intéressant, mais à la fois, c'est très prenant.
Et question bonus plus, pour qui allez-vous voter si vous n'êtes pas présente au second tour?
J'y réfléchirai à ce moment-là, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on n'invitera personne à voter spécifiquement pour l'un ou l'autre. Chacun de nos électeurs sera libre de choisir. C'est la personne qui lui correspond mieux.
Merci Nathalie Sevaux d'avoir été notre invitée pour cette deuxième semaine consacrée aux élections municipales. Et bon courage pour cette campagne.
Merci beaucoup.
Demain, nous clôturons cette folle série avec Martin Niveau, candidat d'union entre le NPA et le Parti de gauche, qui mène la liste Résister et construire à gauche. N'hésitez pas à lui poser des questions sur notre fil @campusAngers, tout de suite dans le sous-marin sur Radio Campus. On écoute Hills, Mistake of My Youth. And keep repeating, yeah. Dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, c'était Mistakes of My Youth, exclusivité du prochain album de Hills qui sort au printemps. Et le printemps, c'est bientôt. Rémi, notre chroniqueur éco, a d'ailleurs profité du beau temps pour s'enfuir dans les Ardennes. Quelle drôle d'idée, me direz-vous, oui. Mais il nous a laissé une chronique et s'intéresse cette semaine à une catégorie bien spéciale de la population.
Les riches, ils nourrissent les fantasmes. Ils sont puissants, ils n'ont pas de problème au milieu du mois. Ils sont bien. Mais qui sont-ils ? Que représente-t-il ? Est-ce que les grandes inégalités bénéficient à toute la société ? Oui, bien sûr, si l'on en croit la théorie dite du ruissellement. Laissez les riches s'enrichir, et vous verrez qu'à la fin, leur surplus de revenus se répercutera sur toute l'économie, et tout le monde en profitera. Bah oui, s'ils laissent les miettes, alors il faut les gaver pour qu'ils laissent des plus grosses miettes. C'est QFD. Ils créeront des emplois, ils motiveront tout le monde à réussir comme ils le font, par la force de leur travail. Et c'est là qu'on rigole. Et surtout qu'on essaie de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Introduisons donc des indicateurs. D'abord, le revenu médian. C'est le revenu qui coupe la population en deux. La moitié de la population gagne plus, l'autre moitié gagne moins que le revenu médian. En France, il est à environ 1600 euros. Le revenu moyen est plutôt de l'ordre de 2000 euros.
C'est quoi la différence entre les deux, le revenu moyen et le revenu médian ?
Le revenu médian, en gros, il se promène sur l'échelle des revenus jusqu'à atteindre la moitié de la population. Et là, il se fixe, 1600 euros. Le revenu moyen est, comme son nom l'indique, la moyenne de tous les revenus. S'il y a des ultra-riches, ça compte dans le calcul du revenu moyen, mais pas médian, ce qui donne plus d'informations sur le niveau des inégalités dans un pays.
Et les riches alors ?
J'y viens, Tiphaine ! Quelle impatience ! Évidemment, il est d'usage de s'imaginer des personnes qui, comme Bill Gates, se sont faites toutes seules et ont accumulé, par leur force de travail et les occasions qu'ils ont su saisir, une immense fortune. C'est en partie vrai. Aux États-Unis, terre où les inégalités sont parmi les plus fortes au monde, elles se traduisent surtout par une forte disparité dans les revenus du travail. Le capital a traditionnellement moins de valeur aux États-Unis que dans la vieille Europe. Quand les colons sont arrivés sur le Nouveau Monde, il y avait des terres à perte de vue, donc sans grande valeur. Alors qu'en Europe, le patrimoine est quelque chose de beaucoup plus fort dans les esprits. C'est notre terre. Je la laisse à mes enfants pour qu'ils puissent bien démarrer dans la vie et construire quelque chose. Bref, perpétuer l'œuvre familiale. Amen. Et c'est bien pourquoi les inégalités sont plus acceptées aux États-Unis qu'en Europe. Elles reposent davantage sur le modèle méritocratique du self-made man. Le mec qui a démarré avec pas grand-chose, trois bouts de ficelle. Je dis mec car les hommes représentent 86% du 1% les plus riches, parenthèse close. En Europe, ce n'est pas du tout la même logique. En France, 60% des milliardaires doivent leur patrimoine à leurs parents. 65% en Allemagne. Les inégalités apparaissent alors moins justifiées, d'où un système redistributif beaucoup plus étendu en Europe qu'aux États-Unis. Mais ces derniers réfléchissent aussi de plus en plus à la mise en place d'une protection sociale. En effet, les inégalités ne sont malgré tout pas vraiment bénéfiques pour la société. Tensions sociales qui s'exacerbent, très pauvres qui ne peuvent pas consommer et très riches qui placent tout leur argent dans les paradis fiscaux. Ce qui, pour Gabriel Zucman, dans son nouveau livre intitulé « La richesse cachée des nations », représenterait 5 800 milliards d'euros. Empêchant par là même un impôt juste dont tout le monde s'acquitterait. Et pour la petite histoire, sachez qu'en France, pendant que le revenu médian augmentait de 7% entre 2004 et 2010, le revenu des 0,01% les plus riches a lui bondi de 32%. Une crise, vous dites ? Quelle crise ?
Aïcha et Tina, nos deux reporters slovènes, rencontrent toutes les deux semaines des étudiants étrangers venus à Angers pour étudier. Voilà le témoignage d'une jeune Canadienne.
Bonjour, bienvenue dans la troisième édition de la rubrique à la rencontre des cultures du monde. Cette fois-ci, on est parti en Amérique du Nord. On a parlé avec une étudiante canadienne d'Ontario. Attention, ne faites pas la même erreur que beaucoup de Français qu'elle rencontre. Ce n'est pas Québec.
Ils demandent toujours si je suis Québécois, parce qu'ils adorent les Québécois. Et je dis non, et puis ils sont comme, ok. C'est vraiment la seule chose, je pense, qu'ils connaissent du Canada. C'est un peu embêtant pour moi, parce que je dois toujours expliquer que comme, non, c'est pas que ça. Mais... Québec, c'est complètement francophone, mais Ontario, c'est vraiment anglophone. Alors, quand on apprend le français, c'est vraiment pas toujours le québécois, c'est plutôt le français de la France.
Alors, comment les Canadiens apprennent-ils le français?
Alors, c'est obligatoire dans l'école primaire et c'est obligatoire jusqu'à ce que les élèves ont, disons, 10 ans. Mais si tu veux, il y a plusieurs écoles d'immersion français et comme ça, on apprend le français tout au long de notre vie académique.
Quelles sont, d'après elle, les plus grandes différences entre les Canadiens et les Français?
Les Français sont très studieux. Ils travaillent beaucoup, beaucoup de devoirs, beaucoup d'efforts. Ils prennent beaucoup plus de soins avec tout ça qu'on prend au Canada. Mais ils mangent beaucoup de nourriture qui n'est pas le plus sain, comme beaucoup de crème, beaucoup de fromage, beaucoup de lait, beaucoup de viande. Mais ils ne sont pas trop gros. Je sais même pas pourquoi, mais je pense qu'ils marchent beaucoup. Les gens marchent plus parce qu'au Canada, on prend la voiture presque partout, parce que les distances sont trop pour marcher.
À l'âge de 13 ans, elle a passé 3 mois chez une famille française et elle a été choquée par la franchise. Et leur remarque du genre...
Ah, comme tu manges trop, ou comme ah, tu pèses comme beaucoup plus que j'ai pensé, comme des choses comme ça, qui sont un peu gênantes, mais pour eux, c'était comme normal de parler de ça, je pense. Non, parce qu'en France, les gens sont polis, mais c'est un politesse très formel.
Une autre particularité française, la bise. Est-ce que ça se fait au Canada?
Pas du tout. C'est plutôt les câlins entre les amis. Et quand on rencontre quelqu'un, c'est on donne la main. Si on fait la bise, ça c'est comme c'est pour rigoler. C'est comme, comme c'est faire quelque chose que les gens font normalement.
Et le style vestimentaire?
J'ai remarqué que, mais c'est un peu méchant, mais que les Français, ils portent les mêmes vêtements pour 2 ou 3 jours de suite. Et pour eux, c'est normal, comme c'est les vêtements jolis, mais c'est toujours les mêmes vêtements. Ils ne les lavent pas. Et ils essayent d'utiliser les parfums pour couvrir le sang. Et ça va, mais je sais que beaucoup de Canadiens et d'Américains, quand on voit ça, on est vraiment choqués. Comme c'est vraiment quelque chose de comme... Oh mon Dieu! Comme... mais il faut dire qu'au Canada, les filles... Oh, et les mecs, beaucoup... C'est plutôt les mecs, ils ne prennent pas soin de comment ils regardent, comme de comment leurs vêtements... de comment ils sont présentés aux autres. Comme ici, c'est des vêtements beaucoup plus chic et plus élégants. Et au Canada, c'est plutôt comme les marques de vêtements que les gens portent et c'est pas trop le style qui compte.
Nous voilà à la fin de l'émission. Rejoignez-nous à notre prochain voyage dans 2 semaines.
C'était le reportage d'Aïcha et Tina et je tiens juste à signaler qu'Antoine, notre réalisateur ce soir, porte le même pantalon depuis 3 semaines. Avant de vous quitter, voici l'agenda de votre soirée angevine. À 20h15 au 400 coups, soirée rencontre autour du film Les éléphants d'Emmanuel Saada. Le réalisateur, dont c'est le premier film, sera présent au 400. Ata Live au Jacaré à 21h, concert de Neko 5, Happening et Nifty Lies au T-Rock à 21h, ambiance punk rock. Voilà, il est l'heure de remettre les scaphandriers au placard. Aux manettes ce soir, c'était Antoine et pour m'accompagner Mathilde, Rémi, Aïcha et Tina. Vous pouvez nous réécouter demain dès 13h ou en podcast sur le www.radiocampusangers.com. Turbulence reviendra le 27 mars à 20h En attendant, ce sera la programmation jusqu'à 21h sur le 103FM, puis vous retrouvez IRM, votre programme de décortiquage musical. Avant de vous quitter totalement, on vous laisse écouter La Bulle Sonore. Radio Campus Angers et Face B vous proposent une série de créations sonores intitulée Accident de parcours. Ce soir, je vous propose un extrait du doc signé Dorothée Hannequin, Voix d'extinction. Il s'intéresse à la voix et à ses mésaventures, très radiophoniques évidemment et très jolies, vraiment. Je vous conseille d'aller les écouter, ils sont à retrouver sur notre site internet. D'ici là, vous allez entendre Cécile Fontaine, professeure des écoles, qui a eu quelques mésaventures avec ses cordes vocales. On vous laisse, merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée sur campus. Allez, bisous.
Je m'appelle Cécile Fontaine, j'ai 29 ans et je suis professeure des écoles dans une école maternelle.
Non mais c'est plutôt calme en fait. Bah, répétez les enfants.
Bah, la voix, moi ça fait partie vraiment de mon identité. Les gens me reconnaissent par rapport à ma voix et qui a changé au fur et à mesure des années. Mais même quand j'étais petite, ma mère disait toujours que j'avais une voix de crécelle. Et voilà, je sais pas, il y a toujours eu quelque chose par rapport à ma voix et le fait que je parle très vite aussi, la façon de m'exprimer et voilà. C'est la grande difficulté, c'est d'essayer de ne pas crier pour se faire entendre. Ma voix, j'utilise, en général, j'essaie d'utiliser une voix grave, mais ce qui est pas du tout forcément bien, d'ailleurs. Soit, justement, je baisse le ton et j'essaie de parler tout doucement pour retrouver le calme quand il y a trop de bruit, voilà. Sauf que parfois, dans l'excitation, dans l'énervement, voilà, les élèves sont tellement bruyants et moi, je suis peut-être un peu énervée aussi. J'ai tendance à crier, ce qui n'a pas forcément toujours un effet. Alors parfois ça fait peur. Sur les petits ça marche quand même un peu, mais je sais que c'est pas du tout la bonne méthode. Ou sinon j'essaie justement d'économiser ma voix et de mettre des chansons pour éviter moi d'utiliser ma voix. Et bref, il est arrivé des fois où je devais juste surveiller la sieste, qui est censée être calme, mais quand les enfants ne dormaient pas, j'avais tendance à chuchoter et à forcer, ce qui est très mauvais pour la voix, et de faire chut, ça suffit. Je pense que quand j'ai commencé à être professeur des écoles, j'ai mal placé ma voix. On m'a pas appris à placer ma voix. Et au fur et à mesure des années, au bout de deux ans et demi d'enseignement, je me suis retrouvée en petite section de maternelle et j'avais 29 enfants. Et là, je pense que ma voix avait déjà été abîmée par mes autres années, mes deux premières années. Je forçais trop sur ma voix. Et souvent, à la fin de la semaine, j'étais à faune, quoi. Donc je suis allée consulter mon médecin généraliste qui m'a dit d'aller voir un phoniatre. Et qui a vu, voilà, qu'il y avait des nodules aux cordes vocales. Donc j'ai vu une orthophoniste pendant 6 mois. Donc je me suis fait opérer des cordes vocales il y a 2 ans, en mars. Le seul risque, c'est que ça marche pas très bien et j'ai pas envie de me faire réopérer une deuxième puis une troisième fois et de finir muette et aphone à 40 ans. Donc moi j'ai eu 1 mois d'arrêt parce qu'en tant que professeur, on pouvait pas reprendre tout de suite. Et j'ai eu 8 jours où j'ai pas dû émettre un seul son. Donc il y a eu un moment où je me sentis vraiment isolée. Donc les gens venaient chez moi, mais un par un en général. Donc là, on pouvait échanger, ils lisaient soit sur mes lèvres, soit on écrivait. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais en décalage, parce que le moment de réagir, la conversation va tellement vite qu'au moment de réagir et de dire, de m'exprimer et de dire ce que je pensais. Et après, donc j'ai pu émettre des sons petit à petit. Et le moment où c'est revenu, j'avais une voix comme si j'avais 8 ans, une voix toute fluette. Donc c'était assez bizarre et déstabilisant, mais j'en étais fière et j'étais contente d'avoir une nouvelle voix. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.